Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une plongée dans l'univers Rose Bonbon de la Walt Disney Company. Rose Bonbon, pas si sûr à en croire le professeur de littérature Christian Schellbourg qui publie Disney ou l'avenir en couleur aux éditions Les Impressions Nouvelles, un essai dans lequel il déconstruit un certain nombre de clichés. Derrière l'arbre commercial et fade des grosses productions de la firme de Burbank se cacherait un ensemble de créations à la pointe du féminisme, des nouveaux modèles familiaux et du multiculturalisme. Mais Disney peut-il être autre chose qu'une usine à rêve? On en parle à 12h55. Après le journal. Avant cela, plongée musicale au cœur de la Nouvelle-Orléans avec la chanteuse Cécile L. Recchia qui rend hommage dans son dernier album à la musique de la Crescent City. The Gumbo, c'est le titre de l'album, c'est aussi le nom d'un plat typique de la gastronomie cajun, mélange d'épices et de saveurs qui varie selon le marché, une ode donc à l'improvisation et à la mixité, servie par l'une des plus belles voix du jazz.
La grande table. Raphaël Bourgois.
There's a expression called pulse, P-U-L-S-E.
Il y a une expression en anglais qui s'appelle le rythme, la pulsation.
You take the pulse to see if a person is dead or alive.
On peut prendre le pouls d'une personne pour voir si elle est morte ou si elle est vivante.
Music is dead without the pulse, Elsa. Mm.
Sans le rythme, la musique n'existe pas, elle est morte.
Bonjour Cécile L. Recchia.
Bonjour Raphaël, pourquoi ?
Vous nous revenez donc après un premier album en 2015, Songs of the Tree, qui rendait hommage, un hommage vocal, au pianiste Ahmad Jamal, dont on vient d'entendre quelques mots juste avant de commencer l'émission, et d'entendre ce titre, Second Line, qui est sur votre dernier album, The Gumbo, sorti le 7 septembre dernier chez Inouï Distribution, un album dédié donc à la Nouvelle-Orléans, la vie dont l'histoire est étroitement liée à celle de la France et à celle du jazz, évidemment, et qui fête cette année le tricentenaire de sa fondation. Vous êtes, Cécile Recchia, l'une des plus belles voix du jazz d'aujourd'hui, je le disais. C'est vrai, cette voix dont on évoque volontiers la technique, la tessiture, la diction, le placement, c'est ce dont on parle en général quand on parle de voix. Et pourtant, avec vous, il faudrait parler peut-être d'autre chose aussi, une autre dimension, qui est la dimension rythmique. C'est pour ça qu'on a choisi cette archive aussi d'Ahmad Jamal. C'est quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance et qu'on entend dans ce titre qui est Second Line, dont on a encore quelques notes.
Oui, merci de relever cet aspect-là. C'est vrai que le rythme, c'est vraiment au centre des explorations musicales qui m'intéressent, qui sont vraiment au cœur de mon travail. Moi, ce que j'aime particulièrement, effectivement, dans la musique, c'est le rythme, le chant et l'espace. Et pour pouvoir véhiculer aussi des émotions et de la danse. Parce que le jazz est aussi une musique de danse qui est quand même étroitement ancrée dans le corps. Et voilà, donc ça vient vraiment nourrir ma réflexion aussi autour des arrangements et de la manière de penser et de chanter cette musique de jazz.
Dans le corps particulièrement, justement, dans ces second lines, dites-nous un mot de ce que sont ces groupes à la Nouvelle-Orléans qui suivent les jazz bands lors des parades, lors de Mardi Gras évidemment aussi, qui est une fête particulièrement importante à la Nouvelle-Orléans. Ces second lines, ce sont des groupes qui sont aussi des groupes de danseurs.
C'est des groupes de danseurs, c'est le kidam de la rue qui vient se joindre à la parade et qui forme effectivement cette seconde ligne, la première ligne étant celle des musiciens, la fanfare principale, ou du cortège funéraire, la famille, les proches, parce que ça peut être ça aussi. Et puis le passant, le voisin, les gens de la rue, les danseurs effectivement, qui viennent se joindre pour former tout un cortège. Et célébrer la musique, la danse, le chant, le rythme, la gastronomie ou la mort aussi.
Vous attachez tellement d'importance au rythme, Cécile Elrekia, que vous avez choisi comme directeur artistique de cet album David Grébille, qui est aussi le batteur.
Oui,
le batteur sur l'album. Vous poursuivez là un travail d'exploration du rythme de la Nouvelle-Orléans. Quelle est la spécificité de ce jazz en particulier sur cette dimension rythmique? Peut-être une autre, si vous voulez aborder d'autres aspects.
Elle m'intéresse. Le rythme, c'est les tomes de la batterie, c'est les percussions aussi, donc c'est la peau, c'est le toucher. Donc on est vraiment dans le corps là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement tactile et sensuel, ça c'est le premier aspect. Après pour ce qui est de David Grébille, on avait déjà travaillé ensemble sur le précédent album, sur lequel il était aussi directeur artistique. Le travail autour des rythmes, c'est la liaison avec l'album précédent. Vous parliez d'Ahmad Jamal tout à l'heure. La plupart de ces batteurs sont originaires de la Nouvelle-Orléans. Et les batteurs de la Nouvelle-Orléans, ils ont vraiment une sonorité, un jeu tout à fait particulier. C'est pas du tout la même manière de jouer la batterie jazz que dans le bebop, par exemple, ou le hard bop. C'est vraiment le résultat de tout un tas de métissages. Et le standard phare d'Ahmad Jamal, qui est Ponciana, est écrit sur un riff, un groove de batterie typique de la Nouvelle-Orléans.
Un groove que vous cherchez à reproduire dans cet album The Gumbo?
Oui, je crois, oui.
C'est vraiment la recherche.
C'est ce vers quoi on tend, en tout cas, c'est la recherche, oui.
Starving there, sitting around the bars and at night walking the streets for hours. The moonlight always seemed fake to me. Maybe it was. And in the French Quarter, I watched the horses and buggies going by. Everybody sitting high in the open carriages. The black driver. And in back, the man and the woman, usually young and always white. And I was always white and hardly charmed by the world. New Orleans was a place to hide. I could piss away my life unmolested, except for the rats. The rats in my dog's small room very much resented sharing it with me. They were large and fearless and stared at me with eyes that spoke an unblinking death.
Puisqu'on parlait des toms dont vous nous avez raconté à l'instant, Cécile Elrekia, que ce sont ces tambours qui rappellent aussi la peau des danseurs. J'ai choisi de diffuser ces Young in New Orleans, qui est un, vous dites presque dans la veine des spoken words à l'américaine, vous dites un poème de Charles Bukowski, je crois, et oui. Donc de la Beat Generation, Beat, on y est peut-être aussi
oui.
dans ce rythme. Quel rapport vous entretenez, Cécile Elrekia? Vous avez fait des études, je crois, de littérature américaine. Quel rapport vous entretenez à cette littérature que vous mettez là en musique et que vous reliez à cette histoire de la musique de la Nouvelle-Orléans?
Vous savez tout.
J'ai travaillé un petit peu.
Je ne sais pas si c'est vraiment le lien entre la littérature et cette musique-là. En tout cas, c'est une culture et une culture métissée. Et moi, j'aime beaucoup les mots. Alors ça, évidemment, ça me vient de mon passé d'universitaire, mais c'est le cas aussi dans ces textes qui sont issus à la fois du Great American Songbook et puis des textes qu'on rencontre là dans cette musique de la Nouvelle-Orléans qui parle des gens. Donc voilà, c'était évoquer Bukowski en lisant une partie de ce poème qui est vraiment très important dans la littérature aussi américaine et qui permettait de donner un autre point de vue. Hein. Aussi, pour moi, c'était faire le lien entre les différentes influences qui m'ont faite. et d'avoir le point de vue aussi d'un écrivain blanc. Ça venait casser peut-être un peu une image qui, dans l'inconscient collectif par rapport à la Nouvelle-Orléans, est peut-être trop ancrée du côté jovial de la force. Pour moi, c'est pas que ça, la Nouvelle-Orléans.
Oui, parce que la question raciale, on l'a noté à la suite de Katrina, par exemple, de l'ouragan Katrina en 2005, qui avait ravagé la ville. La question raciale a émergé, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas, est revenue sur le devant de la scène. Et même dans ce jazz de la Nouvelle-Orléans, cette opposition presque entre une musique blanche, une musique noire, c'est quelque chose qui est fondamental en fait pour comprendre exactement de quoi on parle.
Bien sûr.
Cécile Ricard.
Oui, bah c'est une musique qui est faite d'énormément de métissage avec les Black Indians, les Native Americans aussi, parce qu'il y a des Indiens, il y a des thèmes notamment Tuwepakiwe qui est un thème fait de vocabulaire indien mélangé avec du créole, puis il y a des Italiens, des Espagnols évidemment, des Européens, enfin c'est la rencontre de toutes ces cultures là et tout ce métissage là qu'on entend dans cette musique et dans la gastronomie évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle de gumbo.
On notamment. Va en reparler de ce gumbo évidemment à Cécile Ricard, et puisque vous parlez des Black Indians, je vous propose d'écouter un extrait du documentaire justement de Joe Béranger, Hugues Poulain et Edith Patrouillot qui est sorti cette année et dans lesquels on entend une ode à Mardi Gras. Voilà, là, on n'est vraiment pas dans les groupes de la Nouvelle-Orléans, mais bien dans cette musique populaire ancrée. On voit ce chanteur, et voilà, ils prennent tous la parole à tour de rôle, ils crient, ils hurlent, ils sont pas sonorisés, ils ont juste un tambourin pour s'accompagner. Vous vous êtes attaqué à ce répertoire. C'est le dernier titre de l'album Tutima is a Big Fine Thing, si je le dis bien, Cécile Ricard. Donc une chanson traditionnelle. Qui sont ces Black Indians? Qu'est-ce qui représente exactement la Nouvelle-Orléans?
Compliqué de répondre à ça. Pour moi, c'est les fondations, c'est l'ancêtre, c'est le commencement, c'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la force vitale, vraiment à l'énergie vitale, vraiment, de cette ville.
Une énergie vitale qui tire peut-être du gumbo, donc il faut nous en parler de ce plat typiquement cajun, créole, je ne sais pas très bien comment le dire, voilà, qui change en fonction du marché, des épices qu'on trouve, oui. Et donc il y a un symbole un peu à la fois de mixité et d'improvisation, donc ça convient bien au jazz.
Bien sûr, oui, c'était ça, moi c'est ça qui m'a plu. Oui, de faire avec ce qui est là, avec ce qu'on a sous la main, et puis qui s'inscrit aussi dans le partage. Et dans l'échange, on se retrouve tous autour de la préparation de ce plat et de sa dégustation. Quelque chose de très très humain.
Une cuisine d'improvisation aussi.
Oui, comme dans le jazz.
Comme dans le jazz, mais pour bien préparer, il faut évidemment être pour bien improviser. Pardon, il faut évidemment être très bien préparé.
Oui, il faut être bien préparé, il faut avoir une culture commune, un terreau commun. C'est la base de notre musique, c'est pour ça qu'on peut faire le bœuf ensemble sans avoir travaillé ensemble, sans se connaître nécessairement, mais en tous les cas, voilà, ça suppose de savoir s'écouter.
S'écouter, c'est très important. Écoutons quelqu'un d'autre, Sidney Bechet.
Sidney Bechet, je vais vous poser une question un peu indiscrète. Depuis combien de temps jouez-vous et pourquoi jouez-vous?
Oh, ça fait à peu près 50 années.
50 années, c'est merveilleux.
Et puis... C'est pour mon plaisir,
le
commencement,
le monde,
et maintenant, c'est pour tout le monde.
Je voulais vous demander encore, est-ce que vous pensez que le jazz restera une musique au même terme que la musique classique, c'est-à-dire c'est une musique qui durera?
Ah, vous savez, on a de la musique classique,
oui.
Et du jazz, oui. Et je ne vois pas raison que le jazz continue.
Mais certainement pas, pourquoi pas? Je voudrais encore vous poser une question qui est un petit peu plus délicate. Il y a beaucoup de jeunes gens qui brûlent du désir de jouer du jazz et qui croient qu'ils peuvent jouer du jazz. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, on a beaucoup qui pensent que le jazz est du bruit, alors...
Du bruit, oui.
Oui, alors...
Évidemment.
Et puis encore, il ne comprend pas que...
Oui, il faut, je crois, qu'il faut beaucoup de cœur pour jouer du jazz.
Jouer bien, il faut arrêter, mais il veut continuer.
Oui, il veut continuer, évidemment. Est-ce que vous avez écrit, je crois, une très jolie chose qui s'appelle « Premier bal »
Oui.
Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de la jouer pour nous?
Avec plaisir.
Merci.
Bêché au micro de Simone Alma, c'est une archive INA de 1958. Est-ce qu'on est sorti quand même de cette question qui était peut-être valide en 1958? Est-ce qu'on pourrait encore la poser aujourd'hui, Cécile Elrequia? Est-ce que le jazz est une musique qui va durer?
Alors moi je ne me pose pas la question en fait. Déjà le jazz pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, c'est les jazz pour commencer. Et puis, moi j'aime bien cette manière de penser cette musique-là. Bah, Ava Jamal notamment, mais Nina Simone aussi faisait partie de ces gens qui n'aimaient pas le terme de jazz et qui parlent de musique classique américaine. Et moi j'aime bien ça. C'est intemporel, je vois pas pourquoi ça pourrait pas durer. C'est une musique qui se réinvente de toute manière, comme toutes les musiques. Celle de la Nouvelle-Orléans fait pas exception. Il y a énormément de renouvellement autour du jazz à la Nouvelle-Orléans. Il y a des artistes qui vont chercher à cultiver une certaine tradition. Et puis, il y en a d'autres qui éclatent complètement cette musique-là, qui viennent la teinter de hip-hop, de rap, ou qui reviennent complètement à la musique créole. Je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas. Le rock dure, la musique classique aussi.
Vous dans cet album, donc The Gumbo, Cécile Elrequia, vous avez plutôt choisi des titres classiques justement de cette musique de la Nouvelle-Orléans, des compositeurs qui sont nés au tournant du 19e et du 20e siècle. Il y a pourtant, comme vous venez de le dire, une musique très contemporaine, notamment, puisqu'on parlait de Katrina tout à l'heure, une réinvention à la suite de Katrina. Il faut rappeler aussi que le jazz de la Nouvelle-Orléans avait connu une première crise, ou je ne sais pas si c'était la première, en tout cas une forme de crise au moment de la Première Guerre mondiale. Les bars ont fermé, les bars de jazz ont fermé à ce moment-là. Beaucoup sont partis vers Chicago, vers New York, et ce qui a donné cette explosion aussi. Vous parliez du bebop et d'autres formes qui sont nées dans cette première moitié du 20e siècle. Pourquoi ne pas avoir choisi peut-être aussi un titre plus contemporain dans cet album? Vous aviez envie de faire quelque chose de plus patrimonial peut-être?
Non, ça c'est mon côté... Non, j'allais dire vieux jeu, mais ça dessert le propos. Non, j'aime bien la tradition et j'aime bien les rituels. Alors peut-être oui, je suis allée chercher dans ce répertoire-là... qui peut avoir quelque chose de suranné, mais ce qui m'intéressait, c'était d'y apporter une touche actuelle et de faire entendre à quel point aussi ça peut être moderne, tous ces morceaux-là.
I want a big butter and egg mint from way out in the west. I'm getting tired of working all day. I want somebody who wants me to play. Pretty gold and silver, they have never been mine. But if my dreams come true, dear, the sun's gonna shine. Now I want a big butter and egg man. Hope some big butter and egg man wants me. Now getting so tired of working hard all day. I just want someone who wants to play. Pretty clothes, they have never been mine. But if I find my sugar, the sun's gonna shine. Now I want a big butter and egg man. Hope some big butter and egg man wants me.
Big Butter and Eggman, sur une musique et des paroles de Percy Venable et de Louis Armstrong. La trompette de Louis Armstrong, ce n'est pas elle qu'on entend là, mais celle de Malo Mazurier. Il est le temps de citer un peu vos musiciens. Tout de même, Cécile Elrekia, donc Malo Mazurier à la trompette, David Gribil, on a déjà parlé, à la batterie, Pablo Campos au piano et Raphaël Devers à la double basse. Vous alliez rajouter quelqu'un ?
Non,
tout le monde est là. Tout le monde est là. Et donc cette chanson, ce titre qui a été composé par Louis Armstrong. Il y a un autre personnage important dans les compositeurs de cet album, c'est Paul Barbarin, qui est peut-être moins connu que Louis Armstrong, sauf des fans et des aficionados du jazz. C'est un personnage intéressant qui marque aussi cette histoire du jazz de la Nouvelle-Orléans, obligé de partir lui aussi à Chicago, à New York.
Oui, puis batteur.
Et batteur, c'est vrai, encore un batteur.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il est moins connu, entre guillemets. Et puis Louis Armstrong, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à exporter aussi la musique au-delà de la Nouvelle-Orléans. C'était une star internationale, quand même. Donc, puis il chantait, puis il a joué dans des films aussi.
Donc c'est vrai qu'il est difficile de trouver plus connu que Louis Armstrong quand on parle de jazz. Et oui, Mara, évidemment.
Grosse référence.
Et qui fait partie des vôtres, évidemment, Cécile Elrekia, dans cet album. Hein, je redis le titre, The Gombo, qui est un excellent album, puisqu'on en a déjà entendu quelques titres. Tout le monde peut s'en rendre compte. C'est pas juste moi qui le dis. On peut évidemment s'en rendre compte. Vous avez fait jouer vos musiciens dans les conditions du live, je crois. Oui. C'est-à-dire, non pas une prise chacun dans une boîte, chacun qui joue de son côté en studio, mais bien ensemble. Pourquoi c'était important d'enregistrer cet album comme ça ?
J'avais envie de préserver un son qui soit le plus authentique possible. Et puis, moi, je ne suis pas très intéressée par la perfection. Alors, je m'explique là-dessus. Si on est chacun dans une cabine, effectivement, on peut reprendre à l'infini jusqu'à avoir le son le plus parfait.
Et même monter un titre avec les différents bouts de différentes
prises.
Voilà,
on peut faire du bidouillage. Alors, évidemment, après, quand on travaille sur le son, on peut toujours rectifier des choses. Mais moi, j'avais vraiment envie d'avoir mes gars avec moi et qu'on soit ensemble dans les conditions qui soient les plus proches du live. Surtout parce que moi, je suis une musicienne, une chanteuse de scène, et j'ai besoin de retrouver cette sensation et cette énergie-là en studio.
Et puis, ça correspond bien à la Nouvelle-Orléans.
Complètement. C'est pour ça qu'on a enregistré sur un piano droit aussi, d'ailleurs. C'était vraiment pour préserver un son qui soit dans mon imaginaire, en tout cas, dans la façon que j'ai de l'envisager, au plus proche de la Nouvelle-Orléans.
Vous êtes rendue à la Nouvelle-Orléans pour vous inspirer ? Pas encore ?
Pas encore.
Vous n'y avez jamais mis les pieds ?
Non.
Donc c'est juste, une passion musicale
qui
vous a amené.
Une Nouvelle-Orléans imaginaire, peut-être, imaginée, je sais pas. Oui, après, ça, c'était aussi un travail qui s'inscrivait dans la continuité du premier album, Ahmad Jamal. Et puis une musique, effectivement, qui m'accompagne et qui est là aussi depuis un petit bout de temps, donc j'avais envie de dire des choses dessus.
Une musique qui vous accompagne, et justement, puisque vous nous reparlez d'Ahmad Jamal, voyons comment lui envisageait la composition.
I started composing at 10 years old.
J'ai commencé la composition au piano à 10 ans.
Maybe before.
Peut-être même avant.
Because I was playing at 3.
Parce que vous savez que j'ai commencé le piano à 3 ans.
So I think I was composing maybe before 10.
Alors je crois que mes premiers morceaux, en fait, je les ai composés avant 10 ans.
And I'm still composing every day.
Et aujourd'hui, je compose toujours, tous les jours.
So there are many elements to my composing.
Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu dans la façon dont je compose ma musique.
First of all, the repertoire is vast.
Aussi, le répertoire est vaste.
After 80 years.
Ça fait 80 ans que je joue du piano, donc vous imaginez que mon répertoire est vaste et riche.
And there are many other reasons or ingredients that go into the recipe of composing.
Voilà, et vous savez, composer, c'est un peu comme une recette. Il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans cette recette.
You have to practice each day.
La première, c'est on doit pratiquer le piano tous les jours.
You certainly get the ideas for compositions.
Voilà, et quand on pratique tous les jours, les idées viennent plus naturellement, en fait.
Then life itself is one of the factors in composing.
La vie elle-même, la vie qu'on traverse, la vie de tous les jours, c'est.
It has much to do with composition.
Voilà, la vie de tous les jours, les expériences qu'on traverse, donc aident pour composer et pour trouver l'inspiration.
On file la métaphore culinaire. Cécile Elrekia avec cet extrait au micro de France Inter, c'est mission Summertime en 2013. Cet extrait d'Ama Jamal qui nous parle de la composition comme d'une recette de cuisine dans laquelle différents ingrédients rentrent en compte, dont l'histoire personnelle évidemment. Vous avez commencé à nous en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est particulièrement important dans votre cas.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des origines métissées. Nord-africaine, espagnole, italienne principalement, du sud de l'Italie. Et donc j'ai grandi dans un brassage culturel et puis aussi dans la gastronomie et dans la danse, puisque j'avais une sœur danseuse. J'ai grandi dans les rythmes et dans des tissus de tout un tas de couleurs et dans la musique, alors plutôt classique, puisque là on était sur le répertoire de ballet, mais là tout ça c'est ma culture et la langue anglaise évidemment.
La langue anglaise. Il y a d'ailleurs une citation de Faulkner hein, au tout début de du livret de cet album. Je ne vais pas la lire en anglais, je vais tenter une traduction. Il parle de la Nouvelle-Orléans. Il y a une sorte de tranquillité, de conscience de l'inimportance des choses dont on avait appris à croire, les étrangers comme moi, qu'elles étaient importantes.
Ouais. C'est assez poétique.
C'est très
poétique. L'inimportance des choses.
Ça, c'est moi qui traduis. Je ne sais pas si...
Oui, c'est ça. The unimportance of things. Oui, et qui est fondamental.
Parce que
ça nous nourrit, les petites choses pas importantes.
Forcément, c'est de ça qu'on vit. Et également, Cécile Elrekia, un dernier mot peut-être sur la question de la transmission. Parce qu'on comprend que cet album plonge ses racines dans une nécessité, aussi une volonté de transmettre. Vous avez participé à différentes initiatives comme Jazz à la récré, c'était en 2008. Vous avez travaillé avec Didier Locoud sur ces choses-là. C'est quelque chose qui est important pour vous, la transmission véritablement de cette musique.
Alors, Jazz à la récré, moi j'en assurais les lives, donc j'ai pas eu le plaisir d'enregistrer avec Didier Locoud sur l'album. Mais oui, la transmission est importante, bien sûr. J'ai fait des interventions au milieu scolaire aussi, ça m'est arrivé, autour de la musicalité de la langue anglaise, il y a quelques années de ça. Et puis, je suis formatrice aussi en musique, en jazz vocal. Bien sûr, transmettre, c'est essentiel. Passer le témoin.
Passer le témoin, c'est aussi ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Je vous remercie beaucoup, Cécile Elrekia, d'être venue nous parler de cet album The Gombo qui sort donc chez Inouï Distribution. Là, j'ai retrouvé le titre. On va remettre évidemment sur le site, sur la page de la Grande Table, toutes les références et également vos dates de concert. Il faut en parler.
Prochaine, c'est le 10 janvier au Jazz Café Montparnasse. Et puis, il y aura Jazz à Saint-Germain-des-Prés le 24 mai prochain à la Maison des Océans. Voilà.
Et ben voilà, les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup.
Merci, Raphaël Bourgeois.